Par ailleurs, la revue Et pour si mauvais, j'en étais rédactrice en chef cette année. Margareta Niculescu, qui l'a fondée, m'a fait l'honneur et la joie de m'en confier la rédaction en chef pour le numéro 6. Et j'ai bien peur que ce soit le dernier. Je forme aussi de ça. Voilà, la présentation, décidément, n'est pas tout à fait en mon honneur, mais tant pis. Voilà, et par ailleurs, je suis vacataire, anciennement vacataire en études théâtrales à Paris 3. Et on nous a demandé de présenter rapidement, ce qui n'est pas facile, de faire un état des lieux des cours concernant les arts de la marionnette dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. On le fait donc avec Eric, et donc ce petit duo charmant avec Eric. Je vais essayer de vous parler de ce qui se passe dans les départements d'études théâtrales uniquement. En fait, on avait envie au tout début d'aller faire une vraie photographie de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, dans les départements d'études théâtrales, en arts plastiques, en anthropo, en littérature, etc., etc. Bon, en fait, c'est une année de recherche. Non, je plaisante, mais c'est énormément de temps de travail qu'on n'a évidemment pas pu faire pour aujourd'hui. Donc, on va vous donner des premiers éléments de réponse. J'ai uniquement fait quelques recherches sur les départements d'études théâtrales en France. J'ai envoyé une vingtaine de questionnaires par mail à ces départements d'études théâtrales ou téléphoné au secrétariat pour avoir ces infos. Donc en fait, j'ai quand même eu un retour de 12 réponses et je peux vous dire très rapidement... Quelques retours. Vous citez les universités qui ont répondu, parce que ça, c'est un élément de réponse qui témoigne de leur bonne volonté et de leur intérêt, parce qu'en général, ceux qui ne répondent pas, je prends plein de précautions, hein. Ceux qui ne répondent pas, soit ne s'y intéressent pas, soit je n'ai pas réussi à parler à quelqu'un au bout de 10 coups de fil, donc j'ai abandonné. Mais enfin, on peut imaginer que ceux qui ont répondu et qui ont pris le plus de temps pour répondre sont peut-être les plus intéressés. On peut imaginer ça, hein. À Besançon, il y a des enseignements sur la marionnette. Françoise Quillet a répondu au questionnaire, donc dans le département art du spectacle de l'université de Besançon, en licence et en master. À Bordeaux, Jean-Yves Coquelin a répondu pour l'université Bordeaux 3. En disant qu'il n'y a pas d'enseignement à proprement parler sur la marionnette ou le théâtre d'objets, mais des interventions ici et là, de la licence au master professionnel, des ateliers pratiques. Il cite vraiment des interventions très ponctuelles, et en général, il y a un individu qui est intéressé, soit un étudiant qui va faire un travail de fin d'année autour de la marionnette, soit une intervention d'un enseignant. Donc voilà, il cite... Il témoigne de l'intérêt pour la marionnette dans son département, mais en disant bien qu'il n'y a absolument rien de défini, de prédéfini. Il n'y a pas une politique de soutien des arts de la marionnette particulière là, mais quand même une présence forte. Et il cite également la collaboration avec Daniel Lemayeux, donc du point de vue des écritures contemporaines. Et on connaît le travail d'auteur de Daniel, notamment avec François Lazaro. Donc, il cite aussi la compagnie des Lubies, Vincent Nadal, qui est issu de Charleville-Mézières, de l'école, et qui a animé un TD. Voilà. Donc, ensuite, je cite par ordre alphabétique, j'essaie d'aller très vite, à Évry, au téléphone, on m'a dit « il n'y a rien », et c'était catégorique au téléphone. Donc, je n'ai pas été plus loin dans mes recherches. Ensuite, à Lyon... Bernadette Bost a répondu à mes questions. Elle est en poste comme responsable du département d'études théâtrales depuis 2 ans, je crois. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de... Enfin, plusieurs enseignements hein, qui sont donnés, théoriques et pratiques. Et elle souhaite développer, si c'est possible, imaginer un atelier de réalisation marionnette à ajouter à ses ateliers de réalisation de deuxième année, et un atelier qui serait encadré par un artiste professionnel. Donc là, il y a un état des lieux de cours existants autour de la marionnette et du cirque, en pratique et en théorie, et un souhait de développer. Par ailleurs, Julie Sermon, qui est dans la salle, qui intervenait à Paris 3 dans le domaine des arts de la marionnette, est maintenant en poste à Lyon 2. Donc là, on peut voir se préfigurer voilà, un pôle qui se développe, et évidemment, avec la présence du musée Gadagne, on peut imaginer un développement plus important dans les années à venir, encore, si les uns et les autres le souhaitent. Voilà, dont on parlera ou parlerait si vous le voulez. D'autant que mon camarade soulignera tout à l'heure l'importance de la marionnette en anthropologie à Lyon, je crois. Julie qui est dans la salle, tu pourras, je ne sais plus où elle est, mais tu pourras aussi intervenir si tu veux dire un mot sur ton cours à Lyon, peut-être au moment des prises de parole des uns et des autres. Ahmed, Chantal Guinbault a répondu au questionnaire. Vous la connaissez peut-être, elle est à la fois une casquette universitaire et scénographe. Donc elle a répondu précisément à ce questionnaire en disant qu'il y avait beaucoup d'initiatives de cours théoriques ou pratiques, de la licence au master, soit avec une dominante art plastique, soit une dominante études théâtrales, une dominante scénographie. Et quand je posais la question à chacun de ces enseignants, je leur demandais est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous pensez qu'il faudrait encore développer l'enseignement de la marionnette dans votre université ? C'était sans doute une boutade. Elle a dit que c'était vraiment pas la peine parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à mettre. Mais bon, c'est sûrement une boutade parce que effectivement le travail est fait. Il y a beaucoup d'interventions dans beaucoup de cours et avec des quotas d'heures que je ne vous signale pas, mais des vraies interventions de dizaines d'heures de cours, hein, parce qu'il y a certains endroits où c'est 3 ou 4 heures, un aperçu de 3 ou 4 heures sur la marionnette dans le cadre d'un autre grand cours. Voilà. Ici, il y a un travail de fond qui est fait apparemment. Justement, Pascal Lebrun-Cordier de Paris 1 Sorbonne m'a répondu pour l'université de Paris 1 où il enseigne en disant qu'il n'y avait pas de cours sur le théâtre de marionnettes particulièrement, qu'il n'y avait pas de cours sur le théâtre d'objets, que lui étant intéressé, il s'intéresse particulièrement, il est responsable d'un master sur la création dans l'espace public. Et il peut être intéressé et parler à l'occasion de marionnettes, de rues, Royal de Luxe. Et ça représente 3 ou 4 heures, me dit-il, au total, finalement, d'interventions qui ont un lien avec l'objet monumental et la marionnette hors les murs dans le cadre de ses cours. Sinon, a priori, rien d'autre. Paris 3, alors dans la salle, Marc Duvillier intervient en études théâtrales. Il s'agit d'un cours d'esthétique théâtrale en deuxième année de licence où il aborde la marionnette avec Craig, Decroux, Cantor et certains artistes contemporains. À Paris 3, donc où je suis vacataire, il y a eu aussi des cours donnés par Jean-Luc Matteoli sur l'objet pauvre. Aujourd'hui, il n'est plus à la Sorbonne Nouvelle. Je ne sais plus où il enseigne, mais il continue à enseigner. Peut-être en lycée ? Ah bon, je croyais qu'il avait intégré une autre fac. Il est dans le salle de classe préparatoire à Dijon. Ah, d'accord. D'accord. Alors, dommage qu'il ait quitté Paris 3, parce que je sais que les enseignants appréciaient son cours. Mais il y a beaucoup d'autres enseignements, là. J'ai dit une bêtise ? Non ? François Lazaro, qui intervient en pratique, Éloi Recoin, Marc Duvillier que je viens de citer, moi-même je vais donner un cours au second semestre, je donne un cours au premier semestre sur les politiques culturelles, et dans ce cadre-là, je peux parler du développement des saisons de la marionnette, par exemple, mais c'est plus l'aspect politique-culturel. Daniel Lemayeux, qui est parti aussi, qui a quitté l'université l'an passé, mais qui intervenait dans ce domaine. Julie Sermon, je viens d'en parler, qui est à Lyon maintenant. Jean-Pierre Hahn, qui est critique, mais qui est aussi sensible, on le sait, aux arts de la marionnette, donc qui, dans son cours de critique, peut aborder cette question-là. Georges Banu, qui est également acquis à la cause. Monique Banu-Bory, qui a également quitté l'université l'an passé, mais qui pendant de longues années est intéressé par cette question-là et l'aborde à l'occasion de certains cours. Ce fait qu'on sait qu'à Paris 3, en pratique comme en théorie, il y a beaucoup d'enseignants là qui interviennent. J'espère n'avoir oublié personne parmi les collègues. Mais en tout cas, tout ceci peut donner une cohérence à l'approche de ces disciplines. Et on a le soutien pour ça maintenant de Christine Hamon qui dirige l'UFR, et on l'avait précédemment avec Joseph Danan, qui ne sont pas des spécialistes de ces questions-là, mais qui ont des vraies sensibilités à ces formes, et tout ceci fait qu'on a la chance de pouvoir aborder ces formes et avoir de vrais TD cours théoriques et des cours de 40 heures pour en parler. Faut que j'aille plus vite. Ça va ? Ça va ? Hop. Non. Non, ça va aller. Ça va aller très bien. Ça va aller très bien parce qu'en fait, les résultats suivants sont assez catastrophiques. Donc, par exemple, à Paris 4, Jussieu. Alors, c'est pas un département d'art du spectacle, mais Christophe Trio, Pardon ? Pardon, c'est Paris 7 Oui, Paris 4, c'est Sorbonne. C'est là où je suis inscrite en doctorat. Donc à Jussieu, Christophe Trio me dit qu'il intervient en littérature, il est spécialiste de théâtre. À l'occasion d'un cours, il va parler de marionnettes japonaises. Il est intéressé. Mais bon, bref, au total, il n'y a pas un enseignement sur les arts de la marionnette. Rien. À Paris 10... Beaucoup d'intérêt. J'avais contacté déjà Christian Bier, Bernard Fèvre, Jean-Louis Besson, et on me dit ce serait bien qu'il y ait des cours sur la marionnette, mais se pose le problème des grilles, comme les grilles à la télévision, c'est pas dans quelle case, quel format trouver. Et se pose le format. C'est une question, c'est une réponse récurrente. Vous le savez, les uns et les autres qui enseignaient dans les facs. On ne sait pas où mettre la marionnette, la question de la case, de la bonne boîte est toujours là, ce qui me sidère personnellement, puisque apparemment c'est du théâtre, alors c'est pas si évident que ça, donc on se dit oui, mais art mineur, art majeur, on pourrait poser la question dans cette grille-là, enfin voilà, il faut essayer de rentrer dans des... Pardon ? À Paris 8, oui, absolument, à Paris 8, oui, là je parle de Paris 10, à Paris 10, aujourd'hui, je parle aujourd'hui, il n'y a pas de cours maintenant, voilà, ou depuis quelques années, quoi, ces derniers temps. Mais il n'enseigne plus Robert Abirached. Ça fait quelques années qu'il a. Il est très ouvert aux marionnettes. C'était aussi mon directeur de recherche, mais pour le mémoire de DEA. Et effectivement, il a été un soutien, on le sait, très important en tant qu'homme politique pour la création de l'institut et de l'école. Mais ça fait déjà. 4 ans peut-être qu'il a quitté l'université, je ne sais plus. Donc je parle vraiment de ce qui se passe actuellement ou au cours des 2-3 dernières années. Oui.
Il y a un cinéma, il y a un oui. Cyprano qui s'intéresse beaucoup aux marionnettes depuis peu de temps. Alors je ne sais pas si c'était des cours, mais il y a un colloque.
Il y a eu un colloque. Voilà, il y a eu un colloque, j'allais le citer, absolument. Il y a eu un colloque en 2006 sur cinéma et marionnettes. Voilà. Donc c'est bien. C'est bien que ça existe, mais effectivement, il n'y a pas d'enseignement. Aujourd'hui, mais un intérêt. Un jour. À Poitiers, on me dit, Romain Jobèze nous dit que il n'y a pas de cours pour les arts de la marionnette, mais de l'intérêt. Que éventuellement, dans le master professionnel dramaturgie et mise en scène, ces questions peuvent être abordées. Voilà. Donc ensuite, c'est à peu près tout ce que j'ai eu donc, comme réponse positive, ce qui est déjà pas mal. Je vous dis en tout, je vais passer la parole à quelques personnes. On a 10-12 réponses sur 21 personnes contactées. Mais on peut voir qu'il s'agit de l'intérêt personnel d'individus qui ont axé leur recherche à un moment donné sur le théâtre de marionnettes, le théâtre d'objets, et qui du coup proposent un cours en lien avec ces formes, et qu'il n'y a pas une politique générale dans l'enseignement supérieur. Donc pour ne pas rester sur des notes, notes un peu négatives sur la présentation de ces enseignements, je proposais de donner la parole pour présenter des expériences un peu plus heureuses et dynamiques, et notamment de passer la parole à Didier Plassard pour Rennes, pour faire un petit aperçu sur ce qui se passe à Rennes, et puis évidemment à ma voisine Emmanuelle Ebel, qui pourra parler de Strasbourg, où là aussi il y a des enseignements, une conjoncture heureuse dans le domaine de la marionnette. Oui, je vous passe la parole, puis après je la redonnerai.
Oui, je sais pas, je peux peut-être ne pas parler d'une expérience spécialement heureuse, en fait. Non, c'est pas qu'elle soit malheureuse, mais nous n'avons pas développé d'enseignement spécifique sur la marionnette à Rennes. Sauf dans le cadre d'ateliers, là effectivement depuis assez longtemps. Alors il y a eu des interruptions parce qu'on n'a pas beaucoup d'ateliers non plus, hein, mais j'avais fait venir François Lazaro et ça avait suscité un vrai enthousiasme chez plusieurs étudiants, là quelques-uns sont allés d'ailleurs ensuite à Charleville, à l'école. Ça a été repris ensuite par la compagnie Laou notamment, issue de Charleville-Mézières. Renaud Herbin et Yulika Mayer. Et puis, bon, pour ce qui est des enseignements théoriques, j'ai toujours fait place à la marionnette à l'intérieur de certains cours, mais vraiment à l'intérieur de certains cours. Par exemple, en première année, on en parlait tout à l'heure, sur les formes de théâtre traditionnelles, théâtre orientaux, effectivement, là, parler assez longuement de qu'est-ce que c'est que le bunraku, qu'est-ce que c'est que les théâtres d'ombre en Indonésie, etc., enfin, leur répertoire, leur technique, tout ça. Là, par exemple, pour un cours de master en lettres, parlant sur les rapports entre texte et représentation, je parle aussi du répertoire de la marionnette. Et puis, pour poser la question, est-ce qu'un texte de théâtre est toujours un texte littéraire ? Je leur donne quelques exemples, justement, là, qui sont un petit peu à la marge. Mais, en tout cas, pour moi, ça... Si j'avais à rêver de ce qu'il faudrait arriver à développer dans le cadre d'un département d'art du spectacle dans une ville où, voilà, comme Rennes, où il y a ce département existe depuis longtemps, mais enfin en même temps, qu'est-ce que ça signifie? En deuxième année, ils doivent être 30-40, en troisième année aussi, en master une vingtaine. Désolé de le dire, mais je penserais d'abord à développer les études sur la danse. Par exemple, je veux dire, pour faire quelque chose de spécifique. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut vraiment faire toujours des enseignements spécifiques? Et puis un autre sur le cirque, etc., marionnette. Théâtre de rue, je suis désolé, je vais peut-être heurter certains, mais je trouve que c'est bien que, par exemple, Chantal fasse ça à Metz. Je dis, tiens, peut-être est-ce qu'on aurait pu faire ça, mais en même temps, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est-à-dire, on a peu d'heures de cours, effectivement. Mm-hmm. Donc c'est pas une question de grille, il faut tout leur apprendre aux étudiants et leur consacrer vraiment des dizaines d'heures de cours rien qu'à ça. Quand on voit la place que c'est aujourd'hui à l'intérieur des circuits de diffusion, dans la programmation des CDN, c'est vachement risqué quand même.
Les choses se tiennent, mais ça se discute.
Les choses se tiennent, mais je suis. On ne peut pas faire des cours optionnels où certains préféreraient, comment dire, certains choisiraient d'avoir un cours sur l'opéra, d'autres sur la danse contemporaine, d'autres sur la marionnette. Si on pouvait faire ça, ce serait formidable, comme à Paris 3 où il y a assez d'étudiants. Mais dans une université de province, il faut d'abord leur donner des enseignements généraux sur les arts du spectacle et c'est déjà assez lourd.
Et en fait, ça permet d'ouvrir le débat qu'on aura après avec la salle, parce que je savais bien en vous donnant la parole ce que vous alliez dire, ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ça se discute, voilà. Moi, personnellement, je pense que l'enseignement des arts de la marionnette... Alors, je pense pas, je suis pas monomaniaque et je pense vraiment pas qu'il faille faire que ça, mais que ça fasse partie à un moment donné d'un département d'études théâtrales, ça me paraît une évidence.
Très bien.
Voilà.
Non, non,
je dis que ça. Voilà, je dis pas évidemment qu'il faudrait que tout d'un coup ça devienne la moitié des enseignements des arts du spectacle. Non, mais qu'il y ait des départements en arts du spectacle où ça n'existe même pas, là pour le coup ça me paraît vraiment inconcevable. Mais c'est la question aussi dont on parlait plus largement tout à l'heure, de la place de la marionnette au sein des études théâtrales et des arts du spectacle en général, et qui est... Oui, bien sûr, ce sera l'occasion de la discussion avec la salle. Avant de passer la parole à Eric, je voulais encore vous dire deux mots. Bah oui, je suis désolée. Puis toi, tu vas dire un mot. C'est citer deux exemples d'universités à l'étranger qui ont des programmes intéressants. Il y a une masterclass à Tournai dont aussi je demanderai à Francis de dire deux mots tout à l'heure quand on en sera aux paroles avec la salle. Ça devait commencer cette année, se reporter à l'année prochaine, il pourra nous en parler. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a un DESS de marionnettes qui a ouvert l'an passé à Montréal. Donc avec un programme complet dans ce domaine, riche en pratique, en théorie, etc. Voilà. Et là, je passe vraiment la parole à Emmanuel.
Moi, je vais essayer d'être très rapide. Donc, pour parler un peu de ce qu'on fait à Strasbourg, en fait, on essaye de proposer une réflexion sur la marionnette. Et on inscrit ça dès la première année, c'est-à-dire surtout en leur demandant d'aller voir des spectacles de marionnettes et en intégrant aussi dans les programmes d'analyse de spectacles, des choses comme ça, des spectacles de marionnettes, évidemment. Et donc, un étudiant qui vient chez nous pour 3 ans de licence, normalement, il voit 2 spectacles de marionnettes par an. Et on estime qu'au bout de 3 ans, il en a vu au moins 6. Et c'est déjà... et 6 qui ont des formes très différentes. On essaye vraiment de varier. Après, il y a en deuxième année un cours que je mène sur les pratiques marionnettiques contemporaines que j'ai proposé, enfin qui suit mon initiative, mais qui était aussi une demande qu'on m'a faite de l'encadrement de ces études de ces arts du spectacle. Et puis évidemment, on en parle régulièrement dans les différents domaines. Parce que aussi on a un relais à Strasbourg qui est le théâtre jeune public qui intervient beaucoup dans les cours et les formations que nous avons aussi bien master professionnel que en licence. Donc évidemment ils mènent eux des ateliers de pratique de la marionnette à différents moments du cursus des étudiants avec les marionnettistes associés à leur structure. Voilà. Donc c'est comme ça un peu que ça se construit à Strasbourg aussi parce qu'on a la chance d'avoir une structure qui programme beaucoup de marionnettes et qui du coup nous permet de proposer quelque chose de consistant. Donc je pense que ça doit aussi s'associer à une démarche de la part des professionnels. Et c'est pratiquement toujours le cas, hein, quand il y a un développement dans une université, c'est qu'il y a aussi des interactions et une dynamique dans la ville qui est concernée au niveau des spectacles de marionnettes. Ouais. Voilà, je passe à...
Bonjour. Lorsqu'on m'a demandé d'intervenir dans votre prestigieuse assemblée, je me suis posé le problème de savoir sur quel terrain j'allais travailler. Donc le premier terrain imposé, c'était un terrain Internet. J'ai essayé d'éplucher tous les sites des différents départements d'anthropologie de France pour repérer quelque chose en lien avec les arts de la marionnette. Bon, constat. Voilà, je peux passer la parole. Il n'y a absolument rien. Ce qui n'est pas complètement étonnant. Hein. On ne peut pas imaginer, comme vous le disiez, un saucissonnage de l'anthropologie avec une spécificité, une fermeture autour d'une anthropologie de la marionnette ou des marionnettes ou des formes animées. Enfin bon, bref. Ceci dit, l'absence est quand même assez criante. Quand on regarde à l'envers, à savoir d'un point de vue des départements d'anthropologie, de s'apercevoir que toutes ces formes de marionnettes. Alors je pense évidemment spontanément à des formes traditionnelles, entre guillemets, parce que la tradition évolue forcément, on est d'accord, mais plus spécifiquement sur des marionnettes type enfin, d'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie à la Chine. Bon, on a quand même pas mal de sujets possibles. Or, visiblement depuis 2000, si on regarde par exemple le site des tests de Lyon 2, j'essaie de faire moi très court aussi, si on regarde le site des tests de Lyon 2, on n'a rien si on rentre les mots comme marionnette, rituel ou guignol, hein, on n'a rien depuis 2000. Spécifiquement en anthropologie, j'entends, hein, parce que c'est une discipline particulière. J'espère susciter des questions après. Bon. Si on s'arrête sur un institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est, qui a priori pourrait utiliser le domaine de différentes formes d'ombre, par exemple, comme un sujet, donc l'UMR 6579, il faut être très précis, notez bien 6579, donc l'IRCA, qui possède une revue qui s'appelle Mousson, bon c'est ridicule mais c'est leur choix, aucun article entre 99 et 2007 concernant la marionnette. Je note bien. Hein, Par contre, j'attire votre attention sur l'article de M. Hans Anoutz, dans le numéro 4, sur l'usage des crétèques. Tout le monde sait ce que c'est qu'une crétèque. Crétèques, c'est délicieux, ce sont des cigarettes à la girofle. Bon, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet d'anthropologie. Par contre, la marionnette, alors, ils ont, je ne sais pas ce qu'ils font avec. Bon. Ok. Donc, alors, une fois quand je vous passe tout le détail, parce que j'ai des listings entiers, vous voyez, voilà, où il n'y a rien. Donc, proposition, là je constat, on n'a pas grand-chose. Proposition, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, alors là c'est, j'essaie de susciter des débats parce que je suis un peu niais moi sur ce domaine anthropologie et ce monde-là, que je pratique au demeurant, hein, je manipule des marionnettes chinoises et des ombres, enfin taïwanaises et des ombres chinoises. Entre parenthèses, à Taïwan a été fait il y a 2 ans ou 1 an une étude, enfin une enquête auprès de la population, c'est le ministère de la Culture qui a demandé qu'est-ce que la taïwanité. Ouais. Et la marionnette arrive en première ligne, c'est-à-dire la marionnette taïwanaise représente vraiment quelque chose dans la culture populaire taïwanaise. Il y a des compagnies, il y a moult formes d'ailleurs de marionnettes à Taïwan, c'est très populaire, c'est issu de rituels bien sûr, et puis on a aussi des chaînes de télé qui montrent des formes qu'on appelle des pili, des formes hallucinantes de marionnettes. Donc déjà on a au moins 3 grandes catégories de marionnettes, pour reprendre les critiques de M. Recoin, on a des formes presque infinies déjà sur ce monde-là, et rien n'est dit en ce qui concerne notre approche, nous en tant qu'anthropologues français. Enfin, non, bon. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer déjà faire en sorte que l'ethnocénologie se prenne en charge, puisque ça existe, hein, Paris 8 a une section d'ethnocénologie, est-ce que l'ethnocénologie doit s'interdire absolument le monde merveilleux des marionnettes? Et si oui, pourquoi? Bon, j'ai pas compris, moi. Ensuite, deuxième chose, on peut se poser la question suivante, pourquoi ce désintérêt de la part de chercheurs français pour ces questions qui paraissent aussi évidentes? Ces formes aussi passionnantes. Vous choisissez, vous voyez ce que vous aimez. Pour ce qui est des formes traditionnelles de spectacles, bon, qui existent, qui ont évolué, qui sont présentées à Taïwan, en Indonésie, en Chine, je reprends des pays que je connais bien, est-ce que là on ne peut pas mettre en lumière la responsabilité des programmations en Europe, enfin notamment en France, concernant ces spectacles? Est-ce qu'on n'est pas en train de folkloriser un petit peu toutes ces formes et d'avoir une tentation de démonstration technique plutôt que d'un vrai travail justement sur le texte, sur le répertoire qui existe au demeurant? Je prends un exemple. Il y a 3 jours, j'étais à la Maison des Cultures du Monde et un grand maître taïwanais est venu présenter un spectacle que j'ai vu exactement depuis l'an 2000, 13 fois. En France, en Europe, ailleurs, enfin bon. Donc c'était une démonstration géniale, très prestigieuse. Bon, pas d'histoire, pas de public. C'est ça que je pose comme postulat de départ. Pas de public, donc pas d'intérêt pour des chercheurs qui n'ont pas forcément accès à ce monde-là, sauf s'ils sont partis voyager sur ces terrains-là, mais s'ils sont partis, ils ont d'autres préoccupations que les marionnettes, a priori. Et au final, on arrive à une espèce de résultat qui ni vous permet, vous, en tant que praticien, de puiser dans de fabuleux textes qui analysent le rapport entre ces formes et des sociétés en évolution, et d'un autre côté... mais non, il n'y a pas d'autre côté. Bon, on va s'arrêter là. Question.
Alors, on va continuer. Je vais passer la parole maintenant à à Evelyne Lecuc, qui a été rédactrice en chef de la revue MU, qui dirige aujourd'hui les carnets de la marionnette. Et elle s'est appuyée sur le travail qu'elle a fourni pour la bibliographie générale et particulière de l'Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, dont nous attendons tous la prochaine parution, pour faire un point sur l'état actuel de la recherche, les domaines qui sont bien traités, les lacunes, les sujets déjà explorés à l'étranger mais non traduits, et les ouvrages qui sont sujets à caution, qu'on a déjà un peu parlé ce matin.
Merci. Je voudrais tout de suite rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que comme j'ai tiré sur mon imprimante le maximum de feuilles bibliographiques que j'ai pu réunir à travers le temps, je me souvenais qu'il y avait quand même quelque chose qui pouvait un petit peu alimenter le tout dernier sujet. Alors, je fais une parenthèse pour dire que les cahiers de littérature orale ont consacré un numéro entier aux marionnettes, et que ça date de 1995. Donc on y trouve un certain nombre d'études sur des marionnettes lointaines, et que effectivement on a sans doute pas de cours affichés sur les marionnettes à l'université dans ces domaines de l'anthropologie, de l'ethnologie, mais qu'on a tout de même des chercheurs qui s'y intéressent et qui rapportent de temps en temps des sources. Alors c'est grâce à la bibliographie qu'on peut arriver à les trouver, justement. Et puis je fais encore une autre parenthèse dans l'énumération qui a été faite tout à l'heure sur les cours à l'université, pour dire que de temps en temps les expériences sont un peu atypiques aussi. Tu y faisais vaguement allusion, Emmanuel, mais à Amiens, la demande de l'université Jules Verne n'a pas été de... l'université n'a pas cherché à mettre en place quelque chose de durable, malheureusement, et de tout à fait conforme au nombre d'heures à attribuer au poste officiel, mais il y a eu pendant plusieurs années une demande faite à la compagnie chez Ponce Verte de mettre en place des cours sur la marionnette, parfois pas pratique, souvent théorique, et qui pouvait du coup s'adresser aux étudiants de différentes disciplines. Et c'était quand même aussi une expérience très intéressante, justement, de casser le cloisonnement. Et il se trouve que la compagnie chez Ponce Verte, et non pas l'université, hein, m'a demandé d'intervenir sur un certain nombre d'heures dans l'année, et que je pouvais avoir en face de moi à la fois des étudiants de littérature, d'art plastique, de langues étrangères, évidemment d'histoire du théâtre, enfin, ou d'art du spectacle, ou des gens sur des petites disciplines qu'on ne soupçonne pas au départ quand on pense à la marionnette. Et ces groupes, finalement, que constituaient les étudiants comme ça, venus d'un peu partout, étaient quand même très enrichissants. À la fois entre eux et puis par rapport au type d'enseignement que moi je pouvais y faire, parce que je le réajustais aux étudiants que j'avais en face de moi, à leurs connaissances, à leur naïveté ou à leur pratique, et je trouve que ce genre d'expérience est quand même tout à fait profitable aussi à l'université. Après, c'est une question de crédit sur le fait que ça puisse durer ou non. Donc il ne faut pas rendre trop positif des expériences très, très ponctuelles. Voilà, alors maintenant j'en viens à la bibliographie. J'ai été amenée à travers le temps à faire des recherches, souvent pour des interventions, soit sur l'histoire du théâtre en France, du théâtre de marionnettes en France, soit sur des sujets que je pouvais traiter dans des ouvrages, des publications diverses. Et donc, je faisais des recherches bibliographiques. Comme ça a été dit depuis ce matin, j'ai très vite constaté qu'il y avait, a priori, une auréole attribuée au livre, qui était l'idée que c'était durable par rapport à un autre type de témoignage, le témoignage oral, le témoignage direct, que le livre était durable, qu'il était fiable et qu'il était partageable. Et assez vite, je me suis rendu compte, comme on l'a dit depuis ce matin, que ces trois qualités-là étaient à... était à vraiment apprendre avec beaucoup de recul et que le livre n'est pas toujours durable parce qu'il s'épuise, d'où le grand intérêt du fait de savoir où il se trouve quand on fait des recherches. Et à ce propos, je voudrais tout de suite dire qu'il y a eu un travail de fait qui est quand même très très important, qui est un outil extraordinaire, qui a été initié par l'Institut, qui a d'abord eu une version, donc c'est une bibliographie internationale de la marionnette, avec au départ une sortie qui était les ouvrages en langue anglaise, hein, en anglais, et les ouvrages en anglais traités de 1945 à 1990. Puis, 7 ans plus tard, il y a eu la version des ouvrages en français 1946-1996. Je dis 7 ans plus tard parce qu'évidemment, pour que ce soit ensuite un gros volume comme ça édité, il y a une année de marge. Alors, l'intérêt de cet ouvrage, c'est que non seulement il répertorie tous les écrits en langue française sur tous les sujets qui peuvent se rapprocher de la marionnette, mais en plus, ce répertoire nous dit où sont les ouvrages. Est-ce qu'ils sont à la Bibliothèque nationale? Est-ce qu'ils sont à la Bibliothèque de l'Institut? Est-ce qu'ils sont à la Bibliothèque de Roubaix? Est-ce qu'ils sont à la Bibliothèque Gaston Batty? Il y a des ouvrages qu'on ne peut absolument pas acheter aujourd'hui, qui sont épuisés, mais qu'il faut tout de même pouvoir consulter. Et partir de ce genre de référence qui nous dit où ils sont est vraiment un gain de temps considérable. Alors maintenant, le problème, c'est que, je vous ai dit, il a été édité en 1997. Donc nous avons un certain nombre d'années qui se sont écoulées depuis, qui ferait qu'on pourrait avoir, non pas un deuxième tome, mais au moins la moitié à rajouter. Et la grande difficulté, c'est de se dire, dès l'instant où l'on met une bibliographie en place et qu'elle est éditée, elle est déjà périmée. Donc aujourd'hui, nous disposons d'un outil absolument fantastique, qui est cet Internet dont nous parlons aussi depuis un bon moment, qui pourrait nous permettre de mettre en ligne le contenu déjà effectué de cet ouvrage et de continuer la mise à jour, d'aller beaucoup plus loin et surtout d'ouvrir la possibilité de rajouter un ouvrage continuellement. Alors, quand l'Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette a été mise en chantier, comme toute une équipe de personnes, nous avons travaillé à la fois sur le contenu des entrées, sur les pays, en essayant de trouver une forme d'équilibre entre les continents, entre les pays traités. Et puis, évidemment, nous avons tous eu ce problème de la bibliographie, de compléter le plus possible les notices par une bibliographie. Donc, ce livre qui va paraître l'année prochaine va évidemment plus loin dans le sens chronologique que l'ouvrage que je viens de vous montrer, mais en même temps n'avait pas la même place à y consacrer. Donc, nous avions, c'était Thierry Foulque qui dirigeait la rédaction de ce monumental chantier, et au moment où il a fallu établir la bibliographie, nous avions des contraintes très précises qui étaient d'essayer de trouver les livres dans des langues européennes, on va dire. Les langues européennes nous faisaient penser que les lecteurs pourraient naviguer entre l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le portugais, etc. Et puis très très vite, on s'est retrouvé devant un gros écueil, c'est que ça ne pouvait pas nous donner une alimentation suffisante pour estimer que la bibliographie se tenait. Il a absolument fallu ouvrir sur des langues beaucoup moins partagé par le lecteur qui aura un ouvrage en français à l'origine, hein, c'est bien ça le problème aussi. Pardon. C'est que le lecteur qui achète cet ouvrage en français va tout à coup se retrouver par rapport à une bibliographie avec des références en russe, en polonais, en chinois, en japonais. Et donc, on sait très bien que même s'il maîtrise une de ces langues-là, il ne va pas maîtriser les autres automatiquement. Et donc, il me semble que ce qui est très, très important à voir à partir de tous les travaux que nous faisons les uns les autres, c'est comment nous pourrions envisager des formes de traduction qui ne soient pas trop coûteuses pour qu'un certain nombre d'ouvrages qui semblent assez importants pour que les pays qui ont relu les notices qui les concernaient et dit « il faut absolument le mettre » et que nous nous soyons dit « il n'y a que ça aujourd'hui comme référence bibliographique sur tel ou tel domaine » que nous puissions quand même y avoir accès à moindre coût, parce que la traduction, c'est toujours une chose assez importante financièrement, et que surtout, on évite de passer par des intermédiaires d'autres langues. C'est-à-dire que on sait très très bien que dans tout un tas de domaines, on commence par avoir une traduction dans une langue européenne et qu'après, on part de cette première langue européenne pour en faire dans une autre langue européenne. Et ça fait des déformations, ça fait des malentendus extraordinaires. Pierre Blaise, qui est là, me racontait il y a très peu de jours la façon dont Stanislavski a été extrêmement mal compris pendant longtemps, parce que les textes que nous avions en français était une traduction de l'anglais et non pas du russe, et que ça nécessite une nouvelle traduction pour essayer de remettre un petit peu les choses à leur place. Et l'esprit même du livre a été déformé, parce qu'il était passé par l'esprit américain ou anglais, je ne sais plus ce que tu m'avais dit, Pierre. En tous les cas, dès l'instant où on a une traduction, on modifie l'angle, le regard sur le contenu. Donc, il est vraiment très important d'être vigilant quand nous voyons un ouvrage, en regardant d'où vient la traduction, par quoi elle est passée, parce que sinon, tous ces écueils que nous avons déjà évoqués depuis ce matin, de la transmission, de la déformation de la pensée, et rajoutés encore par celle de la traduction. Enfin, à ça se rajoute celle de la traduction. Alors, il me semble que vous avez tous très bien conscience de choses que j'avais relevées, moi, en préparant ce petit bilan sur la bibliographie, qui était que, donc, il ne faut pas prendre comme argent comptant ce qui est écrit, que les artistes, lorsque ce sont eux qui s'expriment directement, ont forcément une subjectivité immense, on l'a déjà dit, et que lorsque nous trouvons leur seule parole comme source, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'ils avaient à défendre au moment où ils se sont exprimés. Donc, il ne s'agit pas simplement de se dire qu'ils vont rendre plus positive une situation qu'ils ne l'étaient pas forcément, mais il faut voir qu'ils ont, d'une manière extrêmement sincère, une façon de déformer la réalité. Et que nous pouvons... lorsque nous lisons un article, puisque ça fait partie de la bibliographie, tous ces articles qui ont été publiés, lorsque nous lisons un article qui est une parole directe d'artiste, il faut la prendre pour une parole directe d'artiste. Didier Plassard y a fait allusion tout à l'heure en parlant de la sidération. Moi, je suis souvent attristée de voir que, par exemple, des journalistes vont se nourrir d'articles qui ont été des entretiens avec des artistes en reprenant tout à fait textuellement ce qui a été dit, sans en avoir aucune analyse, sans prendre de recul, et que dès qu'il s'agit de chercheurs, il y a une attitude minimale à avoir de vérification et de démarche personnelle qui fait qu'on ne peut pas se contenter de la parole directe de quelqu'un. Alors, encore, je parle des artistes qui peuvent donc, lorsque l'on lit un certain nombre de témoignages, nous apporter un autre type d'information. Hein. On a à apprendre, bien entendu, dedans. Mais lorsqu'il s'agit d'une démarche scientifique qui se veut répertoriant des données précises, des statistiques, etc., on ne peut absolument pas se fier à tout ça. C'est aussi, à mon avis, peut-être pour ça qu'un certain nombre de disciplines ne font pas beaucoup circuler des travaux, ne mettent pas en chantier des travaux sur le monde du spectacle et pas simplement celui de la marionnette. C'est la grande difficulté à avoir des informations précises. Vous avez aussi tous évoqué l'idée d'un vocabulaire commun. On sait très très bien dans le milieu de la marionnette à quel point il est nécessaire d'essayer maintenant de trouver des points d'entente sur un certain nombre de mots de vocabulaire, et c'est une chose qui est flagrante quand on essaie de voir la manière dont donc Geneviève Leleroux-Vray, Gladys Langevin et Bernard Grel ont fait un index dans cet ouvrage, parce que il est très épais cet ouvrage, mais il y a une bonne partie d'index, et c'est extraordinaire de se rendre compte à quel point, quand on fait une recherche, et même sur papier, pas simplement sur Internet, hein, il faut essayer de trouver des entrées qui ont parfois une toute petite nuance, qui contiennent une toute petite subtilité dans le mot différent, parce que là, on va ouvrir une porte supplémentaire. Alors, je voudrais, par rapport à cette histoire dont j'ai pas mal entendu parler depuis ce matin, de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité dans le domaine de la marionnette, ajouter une petite goutte. C'est que dans tous les domaines, le chercheur, lorsqu'il prend une position de chercheur, ne peut pas se contenter de toute façon de ce qui est évident, c'est-à-dire du domaine de départ. On trouve une foule d'informations sur la marionnette et sur les époques anciennes en sortant de ce champ des arts du spectacle, tout simplement parce que il y a des métiers qui ont fait des recherches, il y a des corporations, quand on parle du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont eu l'occasion de relever des minutes de police, effectivement des procès entre les gens, de faire des études sociologiques dans leur domaine, et dans ces domaines-là ressortent tout à coup d'une façon extraordinaire des informations sur des praticiens de la marionnette, artisans pendant très très longtemps, qui donc ne faisaient pas partie dans la société des arts, du spectacle, mais des artisans. Et je vais prendre un petit exemple. Pendant très longtemps, lorsque je faisais de l'histoire de la marionnette devant un public quelconque en France, j'ai cru moi aussi pouvoir dire que Briochet était un montreur de marionnettes, peut-être arrivé d'Italie, et que on ne savait pas comment, dans le fond, il avait appris à manipuler, et qu'il avait eu des descendants, qu'il était au bas du Pont-Neuf, etc. Enfin, tout ce qu'on trouve dans les livres que vous avez tous lus. Et puis, j'ai commencé à me dire que ça me gênait un petit peu je trouvais qu'il y avait des contradictions dans un certain nombre de traces que je pouvais trouver. Et puis, un jour, à force de faire des recherches, je me suis aperçue que dans la dentisterie, on avait trouvé les traces de cette famille, qui n'était pas du tout Giovanni Briochi ou Briochi, mais qui était une famille d'Atlin, qui en fait avait pris comme nom ce nom de Briochet, comme nom de spectacle. Et dans la dentisterie, j'ai trouvé des choses extraordinaires sur cette période un petit peu confuse jusqu'à présent. Donc je vois bien que c'est le cas de tout un tas de personnes, et je prendrai les quelques minutes qui me restent, non pas pour, dans le fond, enfoncer des clous qui sont déjà enfoncés depuis quelques heures, mais pour dire que lorsqu'on fait un relevé comme ça de bibliographie, on s'aperçoit qu'il y a quand même des champs qui ne sont pas du tout étudiés. Il y en a un certain nombre qui sont certainement pas clos, parce que je crois que la recherche est exactement comme le spectacle, c'est une perpétuelle évolution, et que beaucoup de grands chercheurs ont repris 10 années après ce qu'ils avaient entamé pour rectifier des pistes, que la recherche c'est aussi un domaine dans lequel on part dans ce qui nous apparaît être des impasses, qu'on a envie de laisser tomber, mais un certain nombre de temps après on s'aperçoit que c'était pas une impasse, qu'il y avait bien quelque chose là qui pouvait être à suivre. Simplement, l'information, il a fallu des années pour l'obtenir. Et on réajuste des choses. Et on repart toujours sur le chantier. Et il faut qu'on se dise que ce qu'on aura trouvé sur le XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pourra encore être remis en cause dans plusieurs dizaines d'années, parce que d'autres portes se sont ouvertes. Mais il n'empêche que il y a quand même... que ce soit dans le domaine, il y a un certain nombre de pays dont je vais vous faire grâce de la liste aujourd'hui, mais j'ai relevé un certain nombre de pays où il n'y a rien du tout d'écrit. Alors, j'en profite pour, en 2 secondes, faire une toute petite remarque désagréable, parce que tout à l'heure, quand Yanis Vassels est intervenu en disant qu'il voulait faire des recherches sur l'Inde et qu'il se demandait s'il pouvait y avoir des échanges d'ouvrages, je me dis que il y a tout de même, tu le sais Yanis, mais il y a tout de même des domaines de recherche où bien l'on peut se contenter de ce que les autres ont trouvé, ou bien on ne peut pas faire l'impasse sur le déplacement. Je crois que tout ce qui a été dit montrait que les choses sont complémentaires. On ne peut pas étudier des spectacles de marionnettes sans avoir affaire aux praticiens, sans avoir affaire aux chercheurs, sans avoir affaire au public. Et on ne peut pas se dire, tiens, puisqu'il n'y a à peu près rien sur le Laos, je vais me lancer dans une recherche sur le Laos, si on n'a pas déjà les moyens d'aller faire un voyage là-bas et de voir ce qui s'y passe. C'est pour ça que je dis, il y a plein de pays dans lesquels on peut se dire, c'est catastrophique, on n'a pas un seul élément, mais on ne peut pas lancer des recherches sans trouver des financements pour effectivement qu'elles apportent quelque chose de crédible. Alors, il y a beaucoup de pays, donc sur le plan géographique, il y a vraiment de la matière. Sur le plan qu'on va appeler plus thématique, il me semble que on a aujourd'hui entendu l'ébauche de plusieurs pistes qui concerne la musique, mais il est vrai qu'il serait très très important que toute cette partie-là commence à intéresser plus de gens, parce que on est devant des moments extrêmement cernés historiquement, que ce soit le travail de Jean-Luc Imp ou le travail de Lilane, elle a donné ses dates. Il me semble qu'il serait vraiment urgent de pouvoir intéresser un certain nombre de personnes, que ce soit des musicologues ou pas, hein. En tous les cas, qu'il y ait un travail de fait. Ensuite, Pierre a évoqué le théâtre des marionnettistes au lieu d'être le théâtre de marionnettes, et je pense que depuis le XXe siècle, on est effectivement en face de ce champ-là à explorer, c'est-à-dire celui de l'interprète. Les notions ont changé à travers le temps. On ne peut pas étudier de la même manière le théâtre de marionnettes des artisans du XVIIIe siècle et le théâtre de marionnettes d'aujourd'hui. Donc il y a sans cesse des domaines qui demanderaient à être investis, interrogés, et je ne vais pas prendre plus de temps pour les énumérer, mais il me semble que si l'on pouvait effectivement envisager une banque de données, une circulation des informations, tout ça ressortira très très vite et donnera envie à un certain nombre de chercheurs de se remonter les manches et de commencer de nouvelles pistes.
Bien, alors là, on a plus le temps de faire... On a plus le temps de... Si, on a le temps, on a le droit à des questions. Ouf. Bien, une première question qui est juste là-dedans.
Alors, effectivement, je pense qu'il faut un peu élargir les champs, parce que depuis ce matin, nous parlons de la marionnette, sans voir que notre sous-entendu implicite, c'est la marionnette au théâtre. Alors qu'en termes de vision, de nombre de spectateurs, ce qui vient en premier, c'est la marionnette à la télévision, en deuxième, c'est la marionnette au cinéma. Et la marionnette au théâtre est bien loin derrière, en termes de chant. Donc il y a déjà ça. Après, il y a aussi les champs de recherche. Parce que par exemple, les anthropologues, on ne peut pas dire qu'ils ne s'y intéressent pas. Moi, je suis régulièrement convié à des ateliers par des anthropologues, mais ils travaillent sur des champs qui sont légèrement décalés. Par exemple, il y a des gens de l'EHESS et du CNRS qui travaillent sur les robots ou sur les régimes de l'attention. Et là, on me demande d'intervenir en tant que marionnettiste. Il y a quelqu'un comme Bruno Latour qui s'intéresse beaucoup aux objets. Et là, il me demande d'intervenir aussi. Voilà. Donc, c'est une question de champ à recadrer à chaque fois et à élargir. Je trouve que souvent, on a tendance à resserrer un peu trop notre champ de vision à nous, marionnettistes. Voilà.
Je voudrais revenir juste sur le début des présentations et les sections d'art du spectacle à l'université, parce que j'ai eu l'occasion donc de faire deux sélections à l'école des arts de la marionnette, et c'est vrai que j'ai remarqué tout spécialement sur cette promotion qui rentre cette semaine à l'école, l'importance sur les 150 dossiers que nous avions reçus des parcours au sein des universités en art du spectacle. Et c'était beaucoup moins vrai sur la précédente promotion. Donc voilà, je voudrais le préciser parce que ça m'est apparu là de façon très très nette, avec des îlots du côté d'Arras, de Lille, de Rennes également, et très précisément Toulouse aussi. Ce ne sont pas des hasards aussi, c'est quand il y a des grandes compagnies qui interviennent de temps à autre à l'université, c'est le cas pour Amiens, hein, voilà.
Juste, parce que Francis va partir.
Oui, la Belgique n'est pas loin, mais j'ai quand même un train à prendre. Donc, une dernière information avant de partir à ce qu'a dit Sylvie. Donc, en Belgique, nous essayons de créer un masterclass à finalité spécialisée. C'est-à-dire, c'est un master donc qui serait créé dans une école des beaux-arts pour des plasticiens et qui serait ouverte aux acteurs sortant des écoles d'art de la scène. C'est-à-dire qu'ils pourraient, grâce à cela, ouvrir des pistes supplémentaires, si vous voulez, à leur insertion professionnelle. C'est un cours de 450 heures qui s'organisera en cours généraux, en tout cas aussi bien pour ces plasticiens que pour les gens des arts de la scène, puisqu'il n'y a pas de cours d'intégration marionnette dans aucune école en communauté française, c'est-à-dire en Belgique. Et donc nous allons créer cela normalement pour l'année 2009-2010, l'année prochaine, donc à partir de septembre à la rentrée, l'année prochaine. Et ça devrait, ce sera même plus que cela, puisqu'on compte ouvrir cette classe pour les demandeurs d'emploi en art de la scène, c'est-à-dire des gens qui sont des jeunes qui sortent des écoles et qui ne trouvent pas de boulot et qui sont formés uniquement au métier d'acteur, d'avoir une possibilité de savoir comment ça fonctionne dans le théâtre des marionnettes et de pouvoir peut-être s'y intégrer. Voilà, au revoir à tous, bon travail.
Au revoir. Donc il y a une réaction par là-bas.
Alors c'est pas une question, effectivement, je voulais juste parler de ce qui se passe à Toulouse. Je reviens dessus. Voilà. Effectivement, il y a un enseignement marionnette à l'université. On n'a pas un département art et spectacle, on fait partie du département lettres. On prend les étudiants qu'à partir de la licence pour les emmener jusqu'en haut, master 1, master 2 ensuite. À l'heure actuelle, on se déplace, c'est-à-dire que déjà physiquement, les cours n'ont plus lieu à l'université du Toulouse-Le Mirail, mais dans un autre lieu dans le centre-ville. dans un bâtiment où il y a également l'ESAV, qui est l'école supérieure de l'audiovisuel. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement ça permet de faire des ponts entre ces deux univers, hein, puisque à l'ESAV il y a aussi des cours sur le cinéma d'animation. Voilà, alors on parlait aussi tout à l'heure de comment dénommer ces cours. À Toulouse, Arnaud Rickner, qui est donc le directeur d'art et spectacle, a dénommé ce cours « Aux frontières du théâtre ». Voilà, y compris la danse, hein, puisqu'il y a aussi en parallèle un cours sur la danse, et donc il a appelé ça « Aux frontières du théâtre ». Voilà, bon, c'est... Après, moi, à la suite de ce qu'a dit Monsieur Plassard juste avant sur la nécessité ou pas d'enseigner le théâtre de marionnettes à l'université, je pense qu'il n'y a pas de nécessité, mais c'est quand même très intéressant qu'elle y soit, bien sûr. C'est vrai que ça pose la question ensuite d'un enseignement spécifique, c'est-à-dire les universités n'ont pas vocation d'être des conservatoires, ça c'est vrai. Mais en même temps, je pense que la marionnette a tout à fait sa place dans cet enseignement-là. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une réaction? Parce que je vous avouerai qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, donc ce serait bien que vous ayez des réactions rapides.
Il y a, en dehors des cours de l'université, il y a des enseignements, comme celui qui est pratiqué au Théâtre Manu, sur 470 heures, oui. Ou 170 heures, hein, et qui sont des lieux ressources pour aller plus loin.
Bien sûr.
Quatre de nos étudiants, par exemple, ont intégré Charleville cette année, ce qui représente 25% de l'effectif. C'est assez formidable. Hein? Et par ailleurs, comme le directeur du théâtre Manu est aussi maître de conférence à Paris 3, il y a... et que Joseph Danan est le président de notre association, il y a en ce moment une recherche de partenariat entre Paris 3 et le Théâtre Manu, de manière à ce que l'enseignement théorique et l'enseignement pratique se recoupent à travers notre activité.
Oui, justement, je voulais, donc juste après cette réaction, je voudrais introduire un dernier sujet qui clôturera cette...
Pour compléter ce que vous venez de dire sur l'histoire 17e, 18e siècle entre les troupes de marionnettes et l'art dentaire, en fait, j'ai un collègue qui est Pierre Baron qui a précisément travaillé sur ces sujets entre l'association des vendeurs d'Orvietan et des charlatans avec leur poudre qui utilisaient la marionnette pour attirer le public et donc le relier à cette famille de briochés et à tous les grands entrepreneurs du 17e dans cette perspective donc de l'histoire des sciences.
Alors je voulais conclure avec une ouverture sur un sujet qu'on n'a pas vraiment pu aborder autour de cette table ronde qui pourtant est très important je pense en ce qui concerne la diffusion des travaux, c'est la question de la publication qui renferme plusieurs problématiques, la première étant de comment on diffuse ces publications et à qui on les diffuse, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de disciplines qui étaient concernées, mais si on regarde dans les bibliothèques sur les rayonnages, pour trouver les livres qui sont dans cette bibliographie, pour que les chercheurs puissent les trouver dans leur rayonnage, qu'ils puissent se dire que ça fait peut-être partie de leur champ éventuellement, il faudrait peut-être aussi qu'il y ait ce travail qui se fasse de documentation qu'on puisse leur apporter. Et c'est tout le travail qui se fait... presque parfois à contre-courant de supporter cette diffusion et cette publication où parfois c'est un peu compliqué, parfois on nous dit oui mais peut-être pas, pourquoi sur la marionnette, on insiste, on dit si il faut publier sur la marionnette, c'est important. L'IEM l'Institut disait qu'il regrettait de ne pas pouvoir soutenir plus de publications, on disait qu'il était dommage qu'il n'y ait pas plus de publications sur le théâtre de marionnettes français. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet important et notamment on a réuni à la table là-bas les publications qui sont faites sur la marionnette qu'on a pu réunir et notamment grâce à l'entretemps qui soutient le travail que fait l'Institut de publication. Voilà, on n'a pas le temps de rebondir vraiment dessus. Mais Christophe Barra est là-bas, si jamais vous avez envie de vous entretenir avec lui. Et je pense que ce serait un sujet à développer à plus tard. Oui. Mais alors, très très vite, hein, parce que oui, sinon on va se faire...
Ça va être linéaire, rassurez-vous. Simplement pour dire, le problème des publications, c'est le problème de la diffusion. Et pour nous, administration, le problème des marchés publics. Point.
Voilà, Christophe, pas de frustration ?
Non, mais juste un mot, mais vraiment un mot, pour dire que notre travail, nous, d'intermédiaire entre les auteurs et les lecteurs potentiels, c'est effectivement un travail de conquête, conquête du lectorat, conquête des intermédiaires que sont les points de vente, les libraires, etc., et d'invention de nouvelles formes de communication, d'interpellation des éventuels lecteurs. Et que c'est pas gagné parce que il y a un travail de diffusion, mais la diffusion de n'importe quel type de littérature en France est très souffrante en ce moment. Donc on se bat au moment le pire de ce que peut connaître la chaîne du livre ou l'économie du livre. Mais en même temps, on s'adresse à des lecteurs qui sont motivés, donc il y a moyen de s'en sortir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, dernière information quand même, c'est important qu'on en ait conscience, c'est qu'un éditeur qui sait qu'il va pouvoir vendre son livre à 10, 15, 20 000 lecteurs, acheteurs, peut l'auto-éditer. À partir du moment où on sait qu'on ne s'adresse qu'à 500 000 ou 2 000 lecteurs, on ne peut déjà plus trouver d'équilibre dans la commercialisation, enfin production et commercialisation du livre, conception, fabrication, etc. Et donc ça repose obligatoirement sur des financements publics. Donc il y a un travail pour nous de convaincre les différentes autorités de tutelle, le Centre national du livre ou diverses universités ou partenaires possibles. Alors le fait d'avoir pu nouer un partenariat avec l'Institut de la Marionnette, ça ouvre une perspective de publication qui reste modeste parce qu'en gros on va pouvoir sortir un livre par an, un livre, un ou deux, un gros livre, la revue et peut-être des livres plus modestes. Mais le besoin du lectorat est très supérieur à ce qu'on va pouvoir nous publier pour l'instant. Donc il y a des choses à trouver, des systèmes à mettre au point avec des financements, etc. Mais bon. Voilà.
Voilà. Bien sûr, si vous avez lu le programme, vous savez qu'il reste encore une dernière intervention de conclusion, l'intervention de Stanka, qui va faire un exercice très très important, qui sera d'ouvrir des perspectives peut-être pour une prochaine journée. Si vous avez des trains à prendre, c'est le moment.
Non, je n'ai pas du tout.
D'accord.
Bien, on va y aller tout de suite parce que comme ça vous libérera plus vite.
Oui, c'est.
On sera de toute façon rapide. Comme d'habitude, dans les premières journées, il y a beaucoup trop de sujets. Tout le monde a envie de parler de tout, donc ça crée des problèmes, puisqu'à l'arrivée, on finit pas la journée. Mais voilà, on sait très bien, quand on fait une première journée, tout le monde est là pour parler. Donc j'ai laissé la parole à Stanka, ancienne élève de l'Institut, encore une ancienne élève de l'Institut.
Je suis, c'est la seule ici présente aujourd'hui. Donc, voilà. C'est un peu un exercice difficile à faire. J'ai accepté avec plaisir de me prêter à ce jeu. Je pense que je ne suis pas la plus légitime pour pouvoir donner des idées par rapport à l'appropriation d'un travail de chercheur et artiste et la question qui a été posée là. Donc ce va-et-vient entre pratique et théorie et recherche, mais je me prête volontiers à cet exercice et je remercie les saisons de la marionnette, Théma et puis tous les participants qui restent. Voilà, je vais essayer de faire bref. Vous imaginez que
C'est une démarche personnelle et je vais ici me positionner d'un point de vue très subjectif. Je partagerai donc cette démarche en toute intimité avec vous. Ce n'est pas une soutenance de thèse que je vais faire ici, ni une valorisation de quoi que ce soit, mais je vais vous montrer aussi une spécificité d'un parcours peut amener à des choses importantes, en tout cas pour moi. Donc je pense que ça a été dit, mais je souhaite suggérer quand même que chaque artiste est un peu, beaucoup à la fois, un petit peu chercheur, et dans la manière d'élaboration d'un spectacle. Et en même temps, chaque chercheur est aussi à la fois artiste, créateur dans sa démarche de recherche et dans la manière dont il va juxtaposer les recherches qu'il a pu trouver. Donc, chercheur et artiste, pour moi, c'est un même combat. Et la recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche personnelle. Donc, cette envie n'est pas hasardeuse chez moi. Cette envie est nourrie d'une réflexion intime et qui sera par la suite partagée. Donc, je situe rapidement le parcours, parce que je pense que, voilà, on a dit, je suis une ancienne. Donc, je suis issue d'abord de l'Académie théâtrale de Sofia, de Bulgarie. Voilà, où j'ai été formée aux arts des marionnettes, pour faire plaisir à Alain, qui est parti tout à l'heure. Voilà, et pas seulement de la marionnette, mais j'utiliserai volontairement aussi ce mot. Vous m'excuserez pour cela. Donc, cette formation, en fait, a ouvert la voie à mon étonnement, à mon envie d'apprendre, de comprendre et bien entendu à ma réflexion sur un art multiforme. Et à l'époque, vraiment, je ne me suis pas posé la question, en sortant de l'école, quel type d'art j'allais pratiquer. Est-ce que ça allait être un art mineur ou majeur, voilà, pour faire un peu écho à tout ceci, un art métissé ou protéiforme, etc. Ce qu'en fait j'ai appris, et ce que l'Académie théâtrale Sofia m'a appris, c'est quand même que la marionnette, toute forme confondue, a une spécificité quand même, un langage propre, de par sa technicité, une histoire quand même, et bien entendu une recherche qui est un petit peu spécifique par sa forme. Et bon, la marionnette fait aussi partie, c'est intégrante du théâtre, et elle est aussi un élément de ce phénomène qui est le théâtre. Donc cette formation qui était très complète et très riche, et qui est traditionnellement ancrée dans les écoles des pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi qu'à la Russie, pose la question de la recherche et de la critique par des disciplines proposées. En plus des arts de la marionnette, donc on enseigne la mise en scène, la scénographie, la critique théâtrale, et il est évident que je reste un peu perplexe quand on se pose encore la question de la légitimité de cet art, bon, en France surtout, de sa supériorité ou de sa minorité, et je pense que la question aujourd'hui n'est pas là. Elle est juste à l'échelle de la légitimité de la place de l'artiste dans la cité, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc la question multiforme, flexible, ambivalente de la marionnette interroge le regard, attire la curiosité et parfois même dérange. Donc la force de la marionnette réside dans cette impossibilité à la réduire à un classement. Donc voilà, on a un petit peu sous-entendu à matinée tout cela. Et c'est vrai que la formation en Bulgarie a été propice à des connaissances, à des expériences dans les diverses techniques de la manipulation. Donc c'est, quand je dis, c'est une école quand même spécifiquement qui forme donc des interprètes avec la marionnette et qui enseigne exclusivement des techniques donc de manipulation. Donc ce qui est voilà. Et donc cette démarche-là, en quelque sorte, a fourni les fondamentaux de la marionnette. Donc c'était une solide base technique dans l'interprétation avec des marionnettes, une expérience du plateau en jeu dramatique et une connaissance de l'histoire des mouvements théâtraux et ceux de théâtre des marionnettes. Donc cette formation traditionnelle a été complétée en 90 avec celle de l'ESNAM de Charleville, et il y a une semaine, donc j'étais très émue et très heureuse de fêter les 21 ans de l'école. Et en fait, cela m'a permis de comprendre avec le recul tout notre parcours, nos expériences et expérimentations au sein de l'école pendant la formation proposée durant ces 3 ans. Donc, ce que l'école à Charleville m'a apporté, je pense que c'est important. Je n'ai pas pu participer à ce qui a été organisé par Lucille, Jean-Louis Ekel, et donc une sorte de débat échange avec des anciens de l'ESNAM. Mais je tiens quand même à le dire ici, donc c'est quand même une ouverture vers d'autres réflexions pour moi qui sortait de Bulgarie. Quand même, je suis arrivée en France en 90, donc avec, vous situez un petit peu tout le parcours avant, donc des choses qui n'étaient pas forcément accessibles en Bulgarie pour moi, en tant que mouvement théâtre ou philosophie, etc. Donc ça, l'école de Charleville me l'a donné, m'a permis d'avoir ces réflexions, donc autour du théâtre en général, la marionnette et évidemment les autres arts. Et cette formation m'a permis aussi de découvrir un chemin, un chantier emprunté par d'autres praticiens, de percevoir cet art sous un autre angle et de s'aventurer dans d'autres directions avec toujours l'envie de réinventer la marionnette. Donc, pour moi, c'est constamment une construction-déconstruction. Et ça, on le voit aussi dans le parcours personnel. Donc, dans ce chantier, que pour moi, j'appellerais, cohabite à la fois la création, la recherche et l'expérimentation, la rencontre avec les spectateurs, l'enseignement et la transmission et l'échange avec les étudiants. Donc, ces formations ont ouvert la voie et la possibilité d'établir une sorte de comparaison entre ces expériences, de prime abord éloigné, mais d'esquisser aussi un début de recherche consacré à la marionnette. Et j'ai donc l'inscription en licence d'art de spectacle en 94 à l'université Marbloch de Strasbourg a permis de compléter cette approche autour des arts de la scène. Donc à l'issue de cette formation de Strasbourg, il nous a été permis en fait d'animer un certain nombre d'ateliers et d'assurer des cours consacré à la marionnette au sein de l'université de Strasbourg, et cela pendant 5 ans. Donc j'ai pu conjuguer mon travail de pratique et travail pédagogique. Et cette première expérience, en fait, va inaugurer un va-et-vient entre pratique et recherche. Et mon approche d'artiste nourrit et continue d'éveiller cette démarche pédagogique, ainsi que la réflexion avec les étudiants autour des arts de la marionnette, leurs spécificités et particularités. Et évidemment, Emmanuel l'a signalé tout à l'heure, pendant mon séjour à Strasbourg, la proximité des lieux tels que TJP, donc de Strasbourg, a contribué à rendre cette pédagogie vivante. Les étudiants fréquentent des lieux dédiés à la marionnette, visionnent des spectacles, ça rend tout de suite les choses plus faciles, suivent des artistes dans leur parcours créatif, effectuent des stages au sein même des compagnies de théâtre, suivent des cours préparatoires à l'école d'Alain Recoin, et puis pour certains, passent le concours de l'ESNAM, certains sont pris, pas d'autres, voilà. Mais tout ça, ça fait que ça, tout ce qui est semé, on récolte plus tard. Donc vraiment être au cœur de la création avec des moments de doute, comme chaque artiste, hein, des moments d'angoisse, de crainte, mais aussi de joie et de partage, permet de proposer une approche de la transmission, un peu particulière. Donc la réflexion pédagogique au sein d'une filière artistique est construite pour moi à la manière d'une millefeuille, donc théorie et pratique se superposent pour créer une sorte d'échafaudage ou langage artistique, langage théorique, vont s'entremêler couche par couche pour former, je l'espère, un ciment solide. Voilà. Donc ainsi, les cours que j'assure à l'Université d'Artois, dans la filière art du spectacle autour ou du travail du spectateur, de l'objet scénique et de l'approche de la marionnette, prennent appui sur mon travail de marionnettiste. Donc de 93 et 2000, j'ai essayé de construire une méthodologie propre d'approche autour des arts de la marionnette, en travaillant pour différentes compagnies, en m'émergeant dans des démarches artistiques diverses, en complétant ces expériences par une formation universitaire. Et donc, il y a quelques années, nous avons senti assez tôt les évolutions du métier et les nécessités d'une approche de la place de l'artiste au sein, même dans la société, des mutations aussi à venir dans les arts du spectacle. Et pour moi, pareil, comprendre et se projeter devenait une nécessité. Donc en 2000, j'ai intégré un DESS de développement culturel et direction de projet à l'université Lyon 2 Lumière, en collaboration avec ARSEC, Agence Rhône-Alpes des entreprises culturelles. Et j'ai pu là mener un travail de recherche questionnant les formes virtuelle, donc double imagé, forme interactive et autre avatar, dans leur relation avec les marionnettes. Ce travail intitulé « Les nouvelles interfaces de la marionnette réelle tangible aux métaphores de survie » était encadré par Brunel et Rulli. Et tout ceci a révélé un parcours qui tente d'être attentif aux pratiques, mais aussi à la formation. Et donc, depuis 2005, j'enseigne à l'Université d'Artois et je regrette là que... Vraiment, ils n'ont pas répondu à l'enquête, mais voilà, oui, voilà, je suis là présente pour en dire un petit peu plus et pour informer ceux qui s'intéressent. J'ai un poste d'attaché de recherche et d'enseignement, attaché temporaire. Hein. Voilà, situant ça dans le temps et dans l'espace. Donc, ma formation initiale me permet en fait de participer au développement de l'enseignement de la marionnette et à l'approche de l'objet scénique. Et je mène au sein de l'université donc, des recherches sur les avatars et les métaphores de la figure humaine dans les spectacles vivants. Voilà, ce travail de thèse a pour point de départ rapidement pour situer la pratique de la marionnette et la place conférée à la figure dans les dispositifs scéniques. Et évidemment, imaginez-vous, il prendra appui donc sur des compétences et des expériences de création, sur un parcours de marionnettiste d'abord en Bulgarie puis à l'ESNAM. Et l'objet est examiné, en fait, le processus de création d'œuvres et de mise en scène au sein de la compagnie Zapoy que nous avons fondée avec Denis Bonnetier. Voilà. Donc Zapoy, pour nous, est devenu en fait une sorte de laboratoire de recherche et d'expérimentation, un support de ma réflexion. Et les interrogations concernant la question des avatars et métaphores de représentation de la figure humaine aboutiront à un spectacle de la compagnie Zapoy intitulé Oko et créé en 2002. Donc là, c'est une première démarche. Et au Phoenix National de Valenciennes, dans le cadre d'une rencontre qui s'appelle Les Imagiciens, qui est annuelle, et c'est une rencontre européenne de la jeune création numérique. Voilà. Et donc, ça esquisse un travail de collaboration assez productif, je dirais, et fort, avec l'école consulaire de l'image à Valenciennes, qui s'appelle Supinfocom. Et depuis 2002, donc, nous avons accueilli une trentaine de stagiaires pour participer à nos créations. Voilà. Donc, en fait, tous les outils méthodologiques déployés au sein de l'université par des chercheurs et des théoriciens ont pu à la fois éclairer mon approche des œuvres et ma pratique de marionnettiste. Donc, les lectures que j'ai pu effectuer, les rencontres que j'ai pu faire ont provoqué ou nourri cette réflexion. Et là, pour être plutôt constructive, je citerai un exemple et je figurerai ici l'expérience que j'ai eue dans mes premières approches avec le travail pour les tout petits spectateurs. Des spectateurs un peu hors normes, les bébés, donc un spectateur qui ne maîtrisant ni l'espace, ni le temps, ni le corps. Et donc c'est un travail de recherche que j'ai entrepris en 2000 en créant une première forme à partir de l'exploration d'un matériau affectif pour les tout-petits, à savoir le papier. Cette brève forme théâtrale interrogeait la question de l'image et le processus de la symbolisation. Et c'est vrai que ça n'a pas été abordé beaucoup, mais peut-être c'était pas ici la place, mais là, dans le partage de cette expérience, c'est vrai que si la marionnette, je vois l'intitulé de la revue Manip, est-ce qu'on doit encore réinterroger la marionnette et théâtre jeune public? Voilà, donc voilà, faisons-le. Donc c'est vrai que si l'art de la marionnette nous semble proche et si près de l'enfance, ce qu'il est une des premières manières d'appropriation du monde. Là, bon, j'étonnerai personne, je citerai les approches que j'ai pu, donc de Winnicott, de Dolto, évidemment, des psychothérapeutes, qui placent l'utilisation de l'effigie et de la marionnette comme un objet transitionnel. Et c'est vrai que ce processus reste presque le même lorsqu'il s'agit de créer une action théâtrale en utilisant par exemple la marionnette. Le corps de l'acteur devient une présence transfigurée, il est à la fois intérieur et extérieur, porteur de signes et signe lui-même. Et là, je citerai aussi donc ce monde vraiment à la lisière des possibles, nous rapprochait de l'essence même de la création. Donc ce qui pour nous était transcender la réalité, approcher l'abstraction, faire jeu de tout et avec tout. Et je citerai Elisabeth que j'aime beaucoup et je partage aussi ces rencontres que j'ai pu faire. Donc c'est conteuse et habile, vraiment illustratrice pour enfants. Elle partage cette idée dans son livre autobiographique « L'enfance de l'art ». Elle dit que l'enfant et l'artiste habitent le même pays. C'est une contrée sans frontières, un lieu de transmission et de métamorphose. Les objets oublient leur contour, s'ajoutent une ombre, changent d'usage, puis se fractionnent encore et forment des images nouvelles. Le fond et la forme s'échangent, leur place. Tout s'interprète et se sépare, tout fait sens et mérite examen. Donc, si le monde des enfants est cet espace créatif, fait de transformations et de métamorphoses, il peut sans doute abriter les artistes et les marionnettistes, évidemment. Et puis, je citerai aussi une rencontre qui a bouleversé ma démarche créatrice pour justement l'approche des tout-petits. C'est une démarche, bon, elle vient pas forcément du monde des marionnettistes, des chercheurs marionnettistes particulièrement. Elle vient de deux pédopsychiatres ethnologues qui sont Varenka et Olivier Marc, qui m'ont donné vraiment la possibilité de structurer une vraie démarche pour le travail avec les tout-petits et pour les tout-petits. Et pour en conclure, je citerai Grégoire Caille, directeur de TGP. Il se posait la question au Giboulet de la marionnette en 2004, pourquoi les gens de théâtre en général, se sont appropriés avec une aisance et facilité le discours de Merhol, de Greg, de Kleiss, de Cantor. Et nous, théoriciens et praticiens de la marionnette, nous avons un petit peu mal à se l'approprier. Bon, ça, le temps a passé, mais là, il y a des choses qui vont émerger. Moi-même, je me pose cette question. Est-ce par la forme qu'on pratique? Est-ce par tous les questionnements qui ont été posés ce matin? J'ai pas de réponse, mais bon, avec les saisons, avec toute cette démarche entreprise au sein des universités, au sein des structures dédiées à la marionnette, peut-être qu'un jour, on sera légitime. Et je le citerai parce que, encore, là, vraiment, j'ai citation de mes notes. Donc, chaque marionnettiste, Grégoire dit, chaque marionnettiste se penchant sur une marionnette et sur un nouveau spectacle est dans le fond toujours en face d'une interrogation à la fois de sa propre pratique, mais une interrogation théorique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de discours théoriques potentiels dans chaque petit atelier où se construit un spectacle. Il y a une interrogation sur la recherche, sur le sens, sur le théâtre. Mais cette recherche se fait d'une manière silencieuse et en tout cas, elle ne traverse pas, elle ne passe pas. Alors, il posait la question aussi d'outils théoriques pour les marionnettistes, d'outils de transmission, d'outils pédagogiques, et peut-être en essayant de donner à la marionnette sa juste place au sein de l'université. Peut-être c'est ça. Aussi peut-être la question de son propre langage à éclairer, à mettre en lumière, peut-être. Voilà. Et peut-être ces outils dont Grégoire parle peuvent se structurer, je l'espère, au sein de l'université. Hein, peut-être, dans l'acte de recherche et de transmission. Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui, la scène de la marionnette peut être une scène propice à faire dialoguer théorie et pratique, une scène dialogue, un va-et-vient entre réflexion et élaboration des œuvres. Merci de votre attention.
Bien, donc je dois conclure, et je vais faire le plus brièvement possible, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder mes notes que j'ai prises toute la journée, donc ça ne servira à rien. Alors j'interviens avec une double casquette, la première casquette encore pour quelques mois comme président de TEMA, et deuxième casquette, alors maintenant depuis quelques mois et pour 4 années, comme président de la commission publication de l'UNIMA International. Alors, première chose, bien sûr, cette journée, je trouve, est d'une importance formidable. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu la faire il y a quelques années, hein, c'est évident. Il y a un développement. Moi, des moments où j'ai entendu les choses ne marchent pas, etc., tout ça déjà extraordinaire. Il se passe énormément de choses, donc j'ai aucune envie d'être négatif, bien au contraire. Je pense que quand la commission recherche de l'UNIMA International cherche les... pistent les chercheurs dans le monde et qui sortent un fichier de 120 chercheurs, dont 5 français, et qu'aujourd'hui on a une trentaine de noms français, on a d'un seul coup apporté 25% de plus de recherche sur le domaine de la marionnette. Donc c'est toujours, on peut toujours considérer que c'est pas assez, mais n'empêche que les choses se développent et se développent à grande vitesse. Il est bien évident que toute cette recherche, c'est une première journée, ça veut dire tout de suite on sait bien qu'il y en aura d'autres, on fera des journées annuelles, c'est clair, sur les thématiques, mais je pense qu'aussi il y aura peut-être d'autres réflexions, parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui que les sujets pouvaient partir dans tous les sens, et quand je dis dans tous les sens, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire que oui, la main est au 17e, au 18e, au 19e, au 20e, et la main est d'aujourd'hui. Donc il y a tellement de choses à discuter, il y a une nécessité, c'est assez extraordinaire de penser qu'on a pu déjà faire cette première journée. Alors je vais essayer d'être très très concret. Très concret, ça veut dire que la circulation de l'information, c'est évident, la chose la plus importante. Qu'on a entendu parler, vous avez commencé à réfléchir, le groupe qui avait travaillé ensemble, sur les chercheuses, sur la création d'un site. On en reparlera. Est-ce qu'il faut créer un nouveau site ou est-ce qu'il faut l'intégrer? Tout ça sont des choses dont on pourra parler après, mais c'est sûr que la circulation de l'information est capitale. L'information est capitale, il y a donc un problème de site. On sait aussi que, alors, ma casquette en tant qu'humain international, c'est vrai que si Martin Lamani soulignait que le numéro 6 des pour ses mauvais, c'était certainement le dernier numéro, et j'en suis désolé pour elle, mais pour moi, c'est, il faut évoluer, il faut faire bouger les choses. Ça veut dire qu'une revue comme un pour ses mauvais, revue papier, ne me paraît pas correspondre à ce qui est important de faire aujourd'hui, mais qu'on va créer une revue internationale de la marionnette sur Internet, qui sera une revue qui sera la traduction en français, en anglais, en espagnol, des meilleurs articles parus dans les revues de marionnettes qui existent dans le monde. Mais par contre, la revue pour ses mauvais, qui va changer de nom, deviendra la revue de la recherche. Donc ça me paraît essentiel aujourd'hui que, justement, on puisse garder les traces d'une façon ou d'une autre sur la recherche aujourd'hui dans le monde, et qu'évidemment, cette revue va devenir la revue de la recherche. Je suis en train de travailler dessus, y compris pour trouver les budgets, toujours pareil, toujours le même problème, mais que cette revue de la recherche aujourd'hui est nécessaire dans le monde de la marionnette. Alors évidemment qu'on sait très bien que la revue de la recherche ne va pas toucher tout le monde, ça peut être un segment un peu plus court par rapport au public qui pourrait acheter, mais la recherche a besoin d'une revue, et l'information générale, les articles généraux, on les aura sur Internet. Le fait d'avoir une revue de recherche qui se conserve, va permettre aussi de faire avancer la recherche. Donc ça fait partie des petites choses. Je voudrais signaler tout à fait au passage que, bon, à Théma, nous avons l'intention de sortir une série d'ouvrages. Ce ne sont pas des gros ouvrages, on n'est pas les premiers, beaucoup de pays l'ont déjà fait maintenant, et en France on ne l'a jamais fait, de petits ouvrages, 40 pages de texte par un chercheur ou un historien, et 20 pages de photos, qui sera ce qu'on appelle le dictionnaire de la marionnette française. Alors je ne sais plus comment l'appeler, dictionnaire, encyclopédie fragmentée, ça change tout le temps, encyclopédie fragmentée de la marionnette française, et en fait qui seront des ouvrages par créateur, et puis de temps en temps des ouvrages thématiques. Voilà. Et quand on parle, par exemple, le premier ouvrage devait être un ouvrage sur Yves Joly, puisque c'est le centenaire, ce mois-ci, le plus vieux marionnettiste français qui vit encore, c'est Yves Joly. Et puis on se trouve, voilà, devant ce problème qu'on n'a pas pu le sortir parce que, ben, il n'y avait pas aujourd'hui trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est trouvé trop éloigné d'une pratique, et par conséquent, sortir un livre sur Yves Joly aujourd'hui, c'était presque impossible, sur un artiste. Alors peut-être que si on avait pris l'idée il y a 3 ans, on aurait été possible. Voilà, on n'a pas eu l'idée il y a 3 ans, donc aujourd'hui on en est là, donc on sortira pas le premier livre sur Yves Joly. Mais on sortira quand même une série comme ça d'ouvrages qui vont être sur les grands noms de la marionnette française, et puis de temps en temps un ouvrage thématique. C'est ce qu'on commencera à partir de ben, on en sortira 2 l'an prochain, de façon à effectivement déjà aussi assumer cette mémoire de la marionnette française, je dirais depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais à mon avis un peu plus tard, puisque la Deuxième Guerre mondiale c'est déjà trop tard. Une petite parenthèse, je vais faire un peu d'autopub. Ceux qui sont un peu intéressés, j'organise à Brie-Comte-Robert. C'est pas facile d'y aller, il faut prendre une voiture. Mais le vendredi 17 octobre, vous trouvez la formation dans Manip, une journée de réflexion autour de la marionnette dans la rue. Alors, Marionnette dans la rue, effectivement, c'est une autre pratique de la marionnette. Il y aura Evelyne Lecuc, ma sœur, qui fera une conférence sur l'histoire de la marionnette dans la rue. Il y aura Anne-Françoise Cabanis qui en va parler de pourquoi programmer dans la rue. Il y aura Émilie Valentin qui viendra dire pourquoi est-ce qu'elle a choisi de jouer, non pas dans la rue, mais à l'air libre. Plus des guignolistes, plus des gens qui s'intéressent à la marionnette de la rue. Donc, si ça vous dit quelque chose, regardez dans Manip, ah, bref, si je me souviens bien, il y a une information sur cette journée autour de la marionnette de rue. Par rapport à toute la journée, j'ai pris plein de notes et comme on a pris vos coordonnées, je pense que le mieux, ça va être aussi d'envoyer des suites d'informations parce qu'il y a des choses à développer. Je vais pas le faire maintenant. Par contre, je vais en profiter pour vous remercier d'être venu. Remercier alors très fortement toutes celles qui se sont impliquées fortement pour faire cette journée. Remercier l'équipe de Théma, heureusement. Et puis remercier la Bibliothèque nationale de France d'avoir accueilli ici. C'est par des opérations comme ça qu'on fait aussi grandir l'intérêt pour la marionnette. Et merci à tous d'y avoir participé.